Pose-moi cette question. Sur quoi le jugement d'existence de la foi pourrait-il se porter dans le récit du déluge? Eh bien, l'Église a répondu. Il y a eu une décision de la commission biblique au début du siècle qui disait que ces 11 premiers chapitres de la Genèse étaient évidemment un langage symbolique, mais d'un symbolisme divin, il ne faut jamais l'oublier, qui implique par le fait même des faits historiques. Donc il y a des faits historiques dont vous ne pouvez pas préciser exactement les circonstances, puisque c'est au-delà de l'histoire. Mais ce sont des faits historiques. Je n'ai pas le droit de dire tout cela, c'est un mythe dans le sens mythe, quelque chose qui est purement une fable. Dieu met ça pour nous rappeler la gravité du péché et pour qu'on ait peur que le déluge recommence. Mais pour que Dieu dit juste l'inverse, il n'y aura plus de déluge. Donc, il n'a pas peur que le déluge recommence. Mais il ne veut pas le faire. Donc, ce qu'il faut, et je pensais le reprendre au terme, mais c'est très bien puisqu'on me le demande maintenant, quand il s'agit de ces 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont très importants, et je crois qu'aujourd'hui, on ne les regarde plus assez. On commence tout de suite avec Abraham, en disant, Abraham, c'est l'histoire. Oui, c'est très vrai, puisque avec Abraham, on touche l'histoire au sens où on peut vérifier et préciser, tandis que les 11 premiers chapitres de la Genèse regardent des faits historiques qui nous sont racontés d'une manière symbolique pour nous faire comprendre la gravité du péché. Parce que si je suis attentif à ces 11 premiers chapitres de la Genèse, je m'aperçois que ces 11 premiers chapitres de la Genèse ponctuent ce point de départ qui est au-delà de l'histoire. Quand je dis au-delà de l'histoire, ça n'empêche pas que ce sont des faits historiques, mais c'est au-delà d'une méthode historique. Je n'arriverai jamais à préciser historiquement à quel moment le déluge a eu lieu. Impossible. Et je crois qu'on ne redécouvrira jamais l'arche de Noé. Ça fait partie des canulars qu'on retrouve régulièrement. Mais je crois qu'on ne le retrouvera pas. Je crois que c'est enfoui exprès. Dieu a permis qu'il y ait quelque chose comme ça qui demeure caché, radicalement caché pour nous, pour que nous comprenions les limites de notre connaissance humaine, de nos connaissances historiques. Alors, ces 11 premiers chapitres de la Genèse, voyons quelque chose d'extrêmement important. Je crois qu'on peut les considérer comme une petite maquette divine. C'est un petit résumé de toute l'histoire de l'humanité. Parce que vous comprenez, si ce n'est plus historique, ce sont des faits qui sont atteints dans une lumière divine. Un petit peu comme l'Apocalypse annonce des faits qui sont atteints dans une lumière divine. Alors, il y a un peu un parallélisme entre l'Apocalypse et les 11 premiers chapitres de la Genèse. En ce sens que les 11 premiers chapitres de la Genèse nous montrent ce qui est enfoui dans l'histoire, ce qui est tout à fait premier. Il n'y a pas de témoin. Et puis, l'Apocalypse me montre ce qui doit arriver bientôt. Mais ce n'est pas non plus un langage historique. Chaque fois qu'on a voulu trouver, si vous voulez, une application historique de l'Apocalypse, on s'est trompé. Vous comprenez bien. Parce que si on avait trouvé immédiatement du temps de Saint Jean, on dirait quoi. Ce qu'on lisait tout à l'heure au réfectoire, vous voyez, on pensait, étant donné les choses terribles, que c'était vraiment la fin du monde qui arrivait. Bon, on est toujours là, chaque fois, Nostradamus, hein. Alors c'est la fin du monde qui arrive, on est tout proche de la fin du monde. Et puis alors il y en a d'autres qui disent, mais non, pas du tout, Vatican II, c'est le point de départ de l'Église. Alors il y a toujours les deux choses en opposition qui sont des choses humaines. Il faut avoir le regard divin sur l'histoire de l'Église et le regard divin sur ce qui nous est donné dans l'Écriture. L'Écriture n'est pas un livre historique en premier lieu. L'Écriture nous donne des faits historiques, nous raconte des faits historiques. Et on peut dire que lorsqu'il s'agit de l'Évangile et des Actes des Apôtres, il nous donne bien l'histoire de Jésus. Mais la méthode employée n'est pas historique. C'est une lumière divine qui nous est donnée. C'est très différent. Les apôtres, les évangélistes sont des témoins du Christ. Ils ne sont pas des historiens. Ils sont des témoins du Christ. Et c'est tout à fait différent quand vous voulez raconter quelque chose historiquement ou quand vous le dites comme témoin. Parce que comme témoin, vous dites « je l'ai vécu comme cela ». Et voilà ce que ça a été dans ma vie. Et voilà toutes les répercussions. Alors, je crois que les 11 premiers chapitres de la Genèse nous montrent comme un petit résumé de toute l'humanité. Vous voyez, c'est à la fois ce qui est au-delà de l'histoire et en même temps ce qui a une valeur symbolique pour toute l'économie divine. Alors, on ponctue l'histoire de l'humanité de cette manière. Je fais la précision. Il y a d'abord un regard très vertical sur la création. Et dans la création, les deux récits, et nous avions bien vu les deux récits, et c'est très important de comprendre ces deux récits, l'un qui nous montre la transcendance de Dieu, et d'autre, l'immanence de Dieu. Le geste et la parole. Dieu crée par son geste, Dieu crée par sa parole. Par le geste, on montre l'immanence. Par le point de vue de la parole, on montre la transcendance. Et dès qu'on est au niveau de la transcendance, on montre l'ordre de la sagesse. Et quand on est dans l'immanence et le geste, on montre la précipitation de l'amour. Ces deux récits de la Genèse, les deux récits de la création, pour nous montrer l'homme et la femme dans la vision de Dieu. Alors, l'ordre de sagesse qui montre que la femme et l'homme sont créés en même temps, et selon l'ordre de l'amour, on voit que la femme et l'homme est créé en premier lieu, la femme en dernier lieu, tout s'achève par la création de la femme. Donc, il y a d'abord ce premier moment, puis après, vous avez le gouvernement. C'est très curieux parce que c'est l'ordre que va prendre saint Thomas. Alors, ce n'est pas pour retrouver saint Thomas dans l'Écriture que je vous dis ça. C'est simplement pour essayer de comprendre l'Écriture. Hein. Parce qu'autrement, je relativiserais l'Écriture à saint Thomas, ce qui serait très très mauvais. Mais je fais l'inverse. Hein. Je vois qu'il y a un bien fondé dans cette distinction que reprend saint Thomas, parce qu'elle est dans la révélation. Il y a d'abord un regard du Créateur sur l'homme et la femme. Et puis, il y a ensuite le gouvernement. Le gouvernement, c'est-à-dire la destinée d'Adam et Ève. Tout est commandé par la première faute d'Ève, chassée du paradis terrestre. Bon, faute d'orgueil, nous l'avons vu. Chassée du paradis terrestre. Donc, le premier ordre est détruit et nous entrons dans un ordre différent. Et on sait très bien que aujourd'hui, la difficulté que nous avons d'accepter ce que représente cette première faute d'orgueil et les conséquences de cette faute sur tous les descendants. Vous voyez bien que c'est métaphysique, parce que c'est actuel. Nous naissons dans le péché originel. Et je vous l'ai déjà dit, Adam et Ève ne sont pas si loin de nous, métaphysiquement. Parce qu'ils sont les responsables de toute la nature humaine, de toute la race humaine. Ils sont responsables en face de Dieu. Tandis que nos propres parents n'ont pas été responsables en face de Dieu, de toute la nature humaine. Et donc la responsabilité d'Adam sur nous est plus grande que nos propres parents. Ça, c'est difficile à comprendre. Ça ne peut se comprendre que dans un regard métaphysique. C'est très curieux, et c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a une proximité d'Adam et Ève, au niveau de la foi, il y a une proximité d'Adam et Ève qui est plus grande que ceux qui sont dans la Syrie. Ceux qui sont dans la série, c'est nos propres parents. Tandis qu'Adam et Ève sont hors série, sont les premiers chefs de file. Vous savez bien, les chefs de file, c'est très responsable. C'est très responsable. On s'en aperçoit surtout quand on a bien dévié pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors on dit, ah, là, à ce moment-là, vous auriez pu faire un petit peu plus d'attention. Vous vous êtes trompé. Vous aviez vu, il y avait deux écriteaux, puis vous n'avez pas vu. L'écriteau vers le ciel et l'écriteau vers la terre. Pas vers la terre, mais vers l'orgueil. Hein. C'est-à-dire l'exaltation de l'intelligence. Première faute. Deuxième. Hors du paradis terrestre. Hein. Puisque la seconde faute est hors du paradis terrestre. C'est le dialogue Cain-Abel. Alors là, ce sont deux frères. Le dialogue entre Ève et Adam est assez particulier. Entre Ève et Adam est assez particulier comme dialogue. Hein. On le sait bien. Ça, c'est un dialogue où on se rejette les responsabilités. C'est quand ça ne marche plus. C'est le genre de dialogue quand ça ne marche plus. Mais c'est ta faute, tu le sais bien. C'est pas ma faute, c'est la sienne. Successivement, on voit ça. Donc, Adam dit c'est elle, et elle dit c'est Satan, c'est le serpent. Alors on se rejette la faute, c'est pas un vrai dialogue. Tandis qu'entre Cain et Abel, il y a un vrai dialogue dans le geste. Tous les deux font le même geste liturgique. Et à l'intérieur de ce geste liturgique, il va y avoir une rivalité. La rivalité que, de fait, Cain ne supporte pas que Abel ne s'occupe plus de lui. C'est insupportable pour Cain. Qu'Abel ne s'occupe plus de lui. Abel, qui est le cadet, devrait s'occuper de Cain. Il devrait lui demander un tout petit peu. Comment on fait pour adorer ? Comment on fait pour faire un geste liturgique ? Tu le fais beaucoup mieux que moi. Et pas du tout. Abel est à l'aise en face de Dieu. Il est tranquille en face de Dieu. Dieu lui suffit. Il n'a plus besoin de faire appel à Cain. Ça, c'est insupportable pour Cain. C'est toujours comme ça. C'est très curieux. C'est tout le temps comme ça. Et Cain n'accepte pas de perdre son droit d'aînesse. Alors qu'en adorant, il devrait perdre son droit d'aînesse. Quand on adore Dieu en tant qu'on est une créature. Ce n'est pas le fonctionnaire qui adore. Ce n'est pas celui qui a un droit d'aînesse qui adore. C'est celui qui est une petite créature. Et il adore en étant seul en face de Dieu. Et donc on voit cette rivalité qui va naître, cette rivalité qui va être la jalousie. Après l'orgueil, c'est la jalousie. C'est la seconde faute. Troisième, l'iniquité généralisée. Toujours en dehors. L'iniquité généralisée qui fait que l'homme n'a plus de respect vis-à-vis de l'autre. Le respect, c'est le fondement, n'est-ce pas ? C'est le fondement de toute autre activité. Le fondement de la morale. L'amour et le respect. Le fondement de la morale humaine, c'est l'amour, et le fondement de la morale religieuse, c'est le respect. Il ne faut pas oublier ça. Et alors, on voit très bien qu'il n'y a plus de respect, on ne considère plus l'image de Dieu qui est dans l'homme. Et parce qu'on ne considère plus l'image de Dieu qui est dans l'homme, Dieu a un dégoût. Et Dieu a envie de tout supprimer. Et alors, on voit le déluge. Et cependant, tout est repris avec Noé. Ça, c'est la reprise de tout. Et puis, quatrième moment, que nous allons voir, le point de vue de la tour de Babel. Vous voyez qu'il y a quatre moments qui ponctuent l'histoire de l'humanité. C'est quand même très curieux. Et je crois ça très important à souligner sous un mode symbolique. Donc, si c'est un mode symbolique, je peux, à travers ces faits historiques, considérer qu'un enseignement divin sur les quatre grandes fautes de l'humanité. Les quatre grandes fautes de l'humanité,
c'est en premier lieu l'orgueil.
On écoute plus le serpent que Dieu. On est impressionné par l'herméneutique démoniaque de la parole de Dieu. Et on n'écoute plus avec la simplicité du cœur l'obéissance. Tout est là, et c'est tout le temps comme ça. Donc, l'orgueil, chassé du paradis d'or. La première faute, c'est l'orgueil. Et c'est pas étonnant, hein, c'est celle-là qu'on retrouvera principale dans les conséquences du péché originel. Oui, c'est vraiment l'orgueil qui est la première faute, et c'est celle-là que vous retrouvez comme péché dominant. Pour chacun d'entre nous, notre péché dominant, c'est l'orgueil. Pas besoin de faire une retraite spéciale là-dessus. Vous le savez tout de suite. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, vous le découvrirez, que c'est la faute dominante pour chacun d'entre nous. Et l'orgueil mourra en dernier lieu. Même quand on sera un moribond sur notre lit, et il y aura encore des tentations d'orgueil. Oh, qui se logeront dans des choses complètement idiotes. Mais ce sera comme ça. C'est la tentation d'orgueil qui demeure, qui est la principale. Second moment, conséquence du péché. Cain et Abel. Ah, c'est très mystérieux. Le premier-né, Cain. Cain montre le premier-né. Le danger toujours de celui qui a le droit d'aînesse. Alors on pourrait regarder à travers l'histoire de l'humanité tous ceux qui ont le droit d'aînesse. Ce serait très intéressant pour illustrer ce second moment. Tous ceux qui ont le droit d'aînesse et qui ne peuvent pas abdiquer leur droit d'aînesse dans un acte d'adoration. Qui n'arrivent pas à offrir leur droit d'aînesse dans un acte d'adoration. Parallèlement à ça, mettez ce que vous trouvez dans l'Apocalypse, les 24 vieillards, quand ils se trouvent autour du trône et qu'ils adorent, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne et ils adorent. Jeter sa couronne, c'est jeter son droit d'aînesse. Quand vous adorez, vous jetez votre couronne. Vous pouvez arriver à la chapelle avec une couronne, vous voyez, c'est merveilleux, tu vois. Couronne, et puis alors, premier geste qu'on fait, quand on se met en adoration, on jette sa couronne. Puis vous en verriez qui garderaient leur couronne sur leur tête. Alors à ce moment-là, ils n'adorent pas vraiment cela. Ils gardent leur droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est celui qui est le plus inscrit en nous. Le droit d'aînesse au point de vue religieux. Le droit d'aînesse au point de vue. Ça existe, ça. Même en vie religieuse, il y a des droits d'aînesse. J'ai su prophète avant toi. Donc c'est bien toi qui dois te soumettre à moi. Un droit d'ancienneté, oui, c'est le droit d'aînesse, le droit d'ancienneté. Alors le droit d'aînesse demande d'être offert à Dieu comme une couronne qu'on jette en face de Dieu pour l'adorer. Si on ne fait pas ça, on tue Abel. Abel, c'est ce qu'il y a de plus religieux, de plus pur, de plus limpide, de plus innocent en nous. Il y a un petit Abel en chacun d'entre nous. Abel, c'est le Christ. Et Cain, c'est ceux qui ont rejeté le Christ. Qui ont gardé leur droit d'aînesse. Les grands prêtres avaient un droit d'aînesse sur le sacerdoce de Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Les jalousies religieuses, c'est pas drôle, mais les jalousies pontificales, c'est encore pire. Hein. C'est quelque chose qui va encore beaucoup plus loin. Et quand il s'agit du grand prêtre, alors on voit très bien. Et c'est parce qu'on garde le droit d'aînesse. Alors quand on garde le droit d'aînesse, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus. On ne peut plus disparaître et laisser passer l'autre devant. Alors vous voyez, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est là. Au plan religieux. Toute l'histoire au plan religieux de l'humanité, c'est cela. C'est Cain qui n'accepte pas qu'Abel passe devant. Et on retrouve la trace partout. Aussi bien au-dedans de nous-mêmes, parce qu'en nous, il y a un petit Cain et un petit Abel. Hein. C'est trop facile de dire que Cain, c'est sur l'autre. Hein. Donc il y a un petit Cain et un petit Abel. Et il y a toujours celui qui veut usurper. Mais à l'égard des autres, nous le voyons bien aussi, à travers l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, qui voit ça constamment. Toute l'économie divine, elle est commandée par ça. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Noé, c'est celui qui est justifié au milieu de tous les autres. La recréation par Noé. Noé représente Jésus. C'est la première préfiguration de l'alliance. C'est ça qu'il faut bien saisir. C'est la première alliance. Donc si on veut vraiment saisir, et on saisira progressivement, hein, le grand thème de l'alliance à travers toute l'écriture, il faut saisir ça. Je crois qu'il faut être très sensibilisé à ça, parce que c'est quand même, au point de vue biblique, c'est quand même quelque chose de très très grand. La manière dont Dieu reprend. Et vous voyez qu'il reprend sur le fond de cette iniquité généralisée. Et à partir de là, il reprend tout. Et il est obligé de tout reprendre parce que tout devient lamentable. Dieu a horreur. Dieu a un dégoût de ce qui se passe. Dieu veut vomir ce qui a été réalisé dans ce qu'il a réalisé lui-même. Il considère qu'il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Alors on reprend tout par Noé. Alors Noé nous montre, voyez, comment le mystère de la nouvelle alliance est une recréation. C'est ça qui est si beau. L'arche de Noé symbolise l'Église. L'arche de Noé symbolise Marie. Tout est repris, c'est une recréation. Vous voyez, l'année sainte, le Saint-Père nous demande de réfléchir spécialement sur le mystère de la rédemption. Alors je vous ai dit, regardons bien le premier moment. C'est très important dans un ordre génétique de regarder le premier moment. Et le premier moment, c'est Noé. Et avec Noé, il y a justement ce fait que Dieu dit à Noé qu'il y a une nouvelle alliance avec lui, qu'il y a l'arc-en-ciel. Il y a l'autel qui est construit. C'est la première fois où apparaît l'autel. Ça, il faut bien saisir. Je vais revenir là-dessus, parce que nous étions arrêtés à ça. Puis, quatrième moment, les hommes ne comprennent pas la grande miséricorde qui leur est donnée. De nouveau, nous sommes en face d'un orgueil. Alors, ça reprend. Le premier orgueil, cette fois-là, il est collectif. C'est un orgueil de l'humanité qui veut se passer de Dieu. Et c'est le symbolisme de l'humanité. C'est le symbolisme de la tour de Babel. Le symbolisme de la tour de Babel, ça nous rappelle que les hommes prétendent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils peuvent se passer de Dieu. Alors c'est symbolisé par la tour de Babel. Vous voyez, on n'accepte pas la nouvelle miséricorde faite à partir de Noé, et les hommes se replient sur eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui mettra un terme à l'humanité, mais ce sont les hommes dans leur orgueil. Voilà ce que nous montre le numéro 4. La conséquence de la tour de Babel, c'est que l'homme ne comprend plus l'homme. C'est la division des langues. La division des langues montre que l'homme ne comprend pas. Puisque la langue, la parole, c'est fait pour que justement on puisse se communiquer. Alors on comprend très bien ce problème qui est repris ici d'une façon très, très mystérieuse et très profonde. C'est que les hommes sont divisés. Première division des hommes, c'est qu'ils ne se comprennent plus par la langue. Ils n'ont plus la même langue maternelle. C'est pour ça qu'on a toujours fait le parallélisme entre la Pentecôte et la tour de Babel. La Pentecôte, c'est que les apôtres parlent leur langue et chacun les comprend dans leur langue maternelle. Et ça, c'est l'Esprit Saint. C'est l'amour qui est au-delà des divisions. C'est de l'amour qui est au-delà des séparations. Les séparations peuvent être très grandes jusque dans la langue. L'amour dépasse là. Et même si on ne parle pas la même langue, on aura au moins les mêmes gestes. Et alors on arrivera à s'unir. L'amour est victorieux, la diversité des langues. Alors que l'orgueil divise l'homme d'une manière telle que l'homme ne comprend plus l'homme. Oui, l'enfer, c'est l'autre. Ça, c'est la conséquence directe de la tour de Babel. Alors, ce qui est très impressionnant, moi, ça m'impressionne toujours beaucoup, c'est très impressionnant, c'est de voir que, vous voyez, ces quatre moments qui ponctuent l'histoire de l'humanité. Et je crois qu'on peut le dire. J'ai demandé ça à un de mes vieux amis, le père Dreyfus, qui est un bon exégèse de l'Ancien Testament. Alors, il m'a dit, quand vous dites ça, c'est évident, ce n'est plus de l'exégèse tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais c'est peut-être la seule véritable exégèse. Il m'a dit ça, pas pour, parce qu'on s'entendait bien, que j'aimais bien d'aller constamment converser avec lui, parce que c'est quand même intéressant, quelqu'un qui lit la Bible en hébreu et qui la connaît parfaitement et qui en même temps a une grande foi. Alors je lui ai dit, est-ce que je peux donner cette interprétation? Moi, ça m'intéresse beaucoup de dire que c'est la petite maquette de l'univers qui m'est donnée là-dedans. On est au-delà de l'histoire. Si on est au-delà de l'histoire, on est donc en face d'un langage qui est beaucoup plus vertical, qui nous donne des faits. C'est Dieu qui scrute le cœur de l'homme. Et puis vous êtes en face des quatre premières colères de Dieu. C'est quand même intéressant, point de vue de la théologie des colères de Dieu. Bon, nous y reviendrons là-dessus, parce qu'il faudra faire la théologie des colères de Dieu pour essayer de comprendre les vulnérabilités de Dieu. Et pour bien les saisir, pour saisir en dernier lieu Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Alors, c'est important de voir ces différents moments de vulnérabilité de Dieu par rapport à l'homme et de comprendre les grandes blessures. La première, l'orgueil, chassé du paradis terrestre. Oui, si chaque fois qu'on faisait un péché d'orgueil, hein, patatran, on était chassé du paradis terrestre, de notre petit paradis terrestre que nous construisons tout le temps, n'est-ce pas ? Chaque fois que péché d'orgueil, chassé du paradis terrestre. Lourdes conséquences. Cain, la jalousie, on tue Abel. L'iniquité généralisée, donc le péché, la dialectique du péché. Le péché qui se généralise et qui prend tout, et qui s'empare de tout. Et à ce moment-là, où tout semble perdu, puisque Dieu veut à lui-même un dégoût, au moment où tout semble perdu, tout est repris. Ça, c'est les grandes miséricordes de Dieu. C'est ça qui donne l'espérance. C'est que c'est au moment où tout semble aller le plus mal, Dieu reprend tout. Et les pères de l'Église ont toujours eu cette vision-là. C'est que le déluge, c'était le premier déluge, mais c'était aussi au moment où le Christ est arrivé. Donc, quand nous voyons actuellement, si vous voulez, certains délus, certaines iniquités du monde qui vont si loin, on peut être sûr que c'est un moment de très grande miséricorde, comme un appel à un renouveau qui se fait à travers Jésus, symbolisé par Noé. Et d'autre part, quatrième moment, les hommes ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas et continuent de vouloir construire le monde à leur taille. Alors, avant de continuer, c'est-à-dire avant de regarder le point de vue de la tour de Babel, puisque c'est ça qui nous reste à regarder, je voudrais vous lire simplement ce petit passage. Vous voyez, la providence est bonne. Alors, on m'a envoyé, vous ne l'avez pas encore, mais je pourrais le laisser pour ceux que ça intéresse. C'est le père, vous savez, qui avait déjà écrit sur les psaumes chrétiens. C'est de la pierre qui vire. Alors, il a écrit, et qu'il est en train de le faire, la Bible chrétienne. La Bible chrétienne, vous voyez ce que c'est exactement comme les psaumes chrétiens, c'est-à-dire en fonction des Septante et de la Vulgate. C'est-à-dire ce que les pères de l'Église ont eu, et non pas la traduction à partir du texte hébreu. Oui. Intéressant, parce que ça fait deux poids, oui, deux mesures. Hein. C'est très intéressant. Alors évidemment, c'est fait avec beaucoup, beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Alors il y a le premier qui donne la traduction, sympathique, intéressante, et puis un second, il y en a deux. Et ça ne va pas très loin, ça ne va que jusque maintenant, nous irons un peu plus vite, le Deutéronome. tellement que je te donne. Mais c'est la Genèse quand même. Et alors le second, il rapporte tous les textes des pères de l'Église, les textes importants des textes de l'Église sur ces quelques grands passages. Donc ça vous évite d'aller les lire tous. Et ça vous permet d'avoir là quelques beaux textes intéressants qui permettent une compréhension évidemment plus profonde de ce que représente c'est la signification de ces gestes. Vous voyez, saint Augustin dit ceci dans la Cité de Dieu à propos de ce texte de la Genèse que nous avions vu, à propos du déluge. Comme le genre humain allait et grandissait à son gré, il y eut mélange et confusion des deux cités, dans une certaine mesure. Une fois de plus, c'est de la femme que vient le malheur. C'est saint Augustin qui dit ça. Non pas d'une seule femme, comme au commencement, mais les fils de Dieu, c'est-à-dire les citoyens de la cité d'en haut, qui pérégrinent en ce monde, aimèrent pour la beauté de leur corps les femmes de la cité terrestre, aux mœurs dépravées. La beauté, certes, est un don de Dieu, mais il l'accorde aux méchants comme aux bons, pour que les bons n'y voient pas un grand bien. C'est saint Augustin, sensible à la beauté, hein, le De Musica, il ne faut pas l'oublier. Saint Augustin est un artiste, hein, et très sensible à ça. Alors vous voyez, c'est pour montrer le déluge, pour montrer la première faute généralisée. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est en face de péché personnel. C'est intéressant de voir que saint Augustin souligne de cette manière-là, nous avons ici deux péchés personnels. Ici, la généralisation. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de péché collectif. Alors, il s'agit de comprendre. L'Écriture aussi nous parle de deux moments. Un premier moment, péché personnel. Un second moment, la généralisation du péché personnel. Ce n'est pas le péché collectif. C'est deux choses différentes. Et le péché collectif, dans cette perspective-là, c'est du positivisme. Parce qu'on prend la conséquence pour la source. Le péché se généralise. C'est vrai, il y a une généralisation du péché. Et c'est pour ça qu'il y a une iniquité généralisée. Et alors, saint Augustin ramène la source, vous voyez, ici, Ève, et là, la beauté des femmes. Mais c'est ça, c'est tout à fait saint Augustin, qui donne cette espèce d'iniquité généralisée. Je vous lis encore cet autre texte. C'est de Denis le Chartreux. Donc, alors, on montre comment Yahvé ferma la porte sur Noé. C'est du reste très beau. On voit le texte, hein, et il souligne, c'est très vrai, je vais passer rapidement, mais c'est très très juste de voir Yahvé ferma la porte sur Noé. On vous boucle, hein ? Bien sûr que vous n'allez pas partir, et c'est Yahvé qui fait ça. Il a demandé de construire l'arche, et Yahvé ferma la porte. Alors, Denis le Chartreux. Inclusit eum dominus deforis. Cela signifie que Dieu, le Père, protégea l'humanité du Christ contre toutes les oppositions. Il faut vous demander quel genre de sens, hein, à propos des sens de l'Écriture qu'on avait vu à propos de saint Thomas. Vous voyez bien ici, hein, sens allégorique. Cela signifie que Dieu le Père protégea l'humanité du Christ contre toutes les oppositions. Non que le Christ n'ait souffert aucune tribulation, mais elles ne purent lui nuire. Et au contraire, lui furent d'un grand profit. Non seulement elles augmentèrent sa récompense, accidentelle, mais le genre humain tout entier fut sauvé par sa passion. Les eaux élevèrent l'arche très au-dessus de la terre. Très très joli. Les eaux élèvent l'arche très au-dessus de la terre. Ce sont les tribulations qui exercent les fidèles sur la terre. À l'heure de la tentation, ils se réfugient en Dieu et estiment que ces adversités sont une joie. L'arche s'élève, car l'Église n'est pas vaincue, et au contraire, C'est elle qui domine grâce au secours de Dieu. Ceci se vérifiera surtout au temps de l'Antéchrist. Donc actuellement, tout le temps, on est au temps de l'Antéchrist. Denis Chartreux. Vous voyez, comme c'est beau, vous retrouvez le double symbolisme à propos du Christ et à propos de l'Église, et ce petit geste, et Yahvé ferma la porte sur Noé. C'est Yahvé qui... Et on voit très bien, c'est un secours de Dieu. Je crois qu'on peut dire aussi ceci, n'est-ce pas ? C'est un secours de Dieu, l'arche. C'est Dieu qui donne cela, comme l'Église. L'Église, c'est une surabondance d'amour. Ce n'était pas nécessaire, puisque le Christ seul est sauveur. L'Église, ce n'est pas nécessaire. C'est la surabondance de l'amour. C'est donc une nécessité dans l'ordre de l'amour. Ce n'est pas une nécessité dans l'ordre de la justice. C'est une nécessité dans l'ordre de l'amour. C'est très important pour la vision qu'on doit avoir sur le mystère de l'Église, surtout aujourd'hui. Donc c'est une nécessité dans l'ordre de la surabondance d'amour. Et parce que c'est une nécessité dans l'ordre de la surabondance de l'amour, on veut nous montrer bien le geste de Dieu. Yahvé ferma la porte sur Noé. L'Église, elle est conduite par Dieu. C'est Dieu qui ferme la porte. C'est pas... Il n'a pas pris des clés, il les a fermées. Hein. C'est bouclé dedans. On est dans l'Église. On y est introduit par Dieu et on est dans l'Église. Pas le droit d'y sortir. Hein. C'est vrai de toute communauté, ça. Dieu boucle par derrière. Bon, c'est très bien. On y entre librement. Mais une fois qu'on est dedans, Dieu ferme la porte. Et c'est vrai, vous retrouveriez comme un symbolisme merveilleux de cette prévenance de Dieu, de cet amour de Dieu, parce que c'est la miséricorde, ça. C'est Dieu qui est là. Alors, Noé ne força pas les animaux à entrer dans l'arche, mais ils y entrèrent sur l'ordre de Dieu. De même que lors de la première création, Dieu amena les animaux à Adam pour voir comment il les appellerait. Ainsi, avant le déluge, les animaux vinrent d'eux-mêmes à l'arche, suivant le nombre indiqué. Ça, c'est Saint Jean Chrysostome, ça c'est merveilleux à propos des remarques de Saint Jean Chrysostome, parce qu'il est toujours plein d'imagination, n'est-ce pas ? J'admire que Noé ait pu vivre au milieu des lions, des tigres, des ours. Mais rappelons-nous quelle fut la dignité du premier homme avant sa désobéissance. Après que le péché nous eut privés de la puissance sur les animaux, Dieu trouva un autre homme pour reproduire l'image originelle et faire preuve d'une grande obéissance. La reprise. Noé, qui est la reprise d'Adam et qui préfigure Jésus. C'est vrai, le nouvel Adam. Alors, on voit le lien, comme ça, entre les deux. Après que le péché nous eut privés de la puissance sur les animaux, Dieu trouva un autre homme pour reproduire l'image originelle et faire preuve d'une grande obéissance. Il le rétablit donc dans son premier honneur et les animaux réapprirent la soumission. Donc, la petite éducation des animaux pendant les 40 jours du déluge, je n'avais pas pensé, tu vois. Il faut que les animaux se rééduquent dans la perspective de l'homme et reprennent ce contact pour retrouver une petite famille, vous voyez. On reprend tout. C'est très beau, du reste, comme idée, parce que ça veut dire que, à cause du péché, ça, cette fameuse vision que saint Augustin a, à cause du péché, il y a une répercussion du péché sur tout le milieu dans lequel vit l'homme. Donc même sur les animaux. Et donc, la reprise radicale qui se fait par Noé va impliquer une reprise de tout le milieu. Alors on a le mini-milieu dans l'arche. C'est le milieu qui est repris avec toutes les espèces différentes. Et dans ce milieu, Noé est comme la figure du premier homme et il reprend ce pouvoir.